Il est 11h10, c'était François Fellman avec C'est toi qui m'a faim. On va aller rejoindre tout de suite Patrice Saint-Pierre de la FADOC qui est au bout du fil, comme d'habitude, le mardi à 11h10. Allô Patrice!
Bonjour Annick.
Patrice, on va parler de la Semaine nationale des personnes proches aidantes 2024 parce que ça a commencé le 3 novembre puis ça se déroule jusqu'au 9 novembre.
Oui, donc du 3 au 9, c'est la semaine qui souligne particulièrement là, le travail des proches aidants. Puis écoute, on parle de ça, mais au Québec, c'est une personne sur quatre là, donc qui est proche aidant. Naturellement, ces gens-là peuvent soutenir, dans le cas qui nous concerne, là, des aînés. Hein, donc, on le voit de façon très régulière, mais il peut y avoir aussi des personnes vulnérables plus jeunes qui bénéficient des services de proche aidant. Donc, c'est une réalité qui est bien présente et qui est essentielle aujourd'hui parce qu'on sait que de nombreux services sont offerts par les proches aidants, permet à des gens de demeurer dans leur domicile. C'est de l'aide aussi pour les transports, c'est de l'aide pour la préparation de repas. Donc, c'est très, très vaste. C'est pas juste des éléments qui sont reliés aux conditions médicales, mais aussi qui sont reliés aux conditions de vie de tous les jours. Donc, des fois, ce qu'on fait pour nous qui paraît tout à fait banal ne l'est pas pour une personne qui est en perte d'autonomie ou qui a besoin. Alors, de là, l'importance d'avoir ces proches aidants-là qui sont, comme on disait, un sur quatre, là, qui
c'est
sont
beaucoup
très,
de monde.
Très importants. Oui, exactement. Puis, qui sont très importants pour nos communautés et pour les familles, naturellement.
On donne des astuces également pour concilier aidance et vie de famille. Puis je trouvais ça très, très intéressant parce que quand on est proche aidant, à un moment donné, Patrice, ben ça déborde, surtout quand on travaille encore. Fait que mener, c'est le conjoint, on est moins là pour le conjoint, on n'est pas là pour soi, on oublie ses rendez-vous, on n'a pas le temps, on oublie de bien manger. C'est une question d'équilibre, puis c'est pas facile.
Et écoute, je pense que t'as bien défini ce qui se passe. Ce qu'on remarque beaucoup, c'est que dans bien des situations, le proche aidant va un peu s'oublier au profit de la personne aidée. Et c'est très subtil parce qu'à la longue, on voit qu'il peut y avoir de l'épuisement. On peut voir qu'il peut y avoir des cas de dépression. On peut avoir des situations où ça va avoir un impact sur les couples. On en a déjà parlé. Donc, de là, l'importance de se donner une structure lorsqu'on est proche aidant pour éviter les pièges que peut nous amener à vivre cette situation-là. Et Juridis Québec a développé sur son site ce qu'on appelle astuce pour concilier aidance et vie de famille. Donc, des fois, lorsqu'on commence à lire, on se dit c'est évident, mais je vous invite de prendre connaissance de l'ensemble des conseils qui sont prodigués. Ils sont très, très pertinents. Il y a une belle structure à tout ça. Puis, il y a des éléments qu'on aurait vraiment intérêt à mettre en place et à considérer pour notre propre équilibre aussi de vie. Parce que vous savez, c'est important d'aider une personne, mais il ne faudrait pas que nous aussi, on devienne une personne qui a besoin d'être aidée. Et dans ce cadre-là, ben il y a des précautions à prendre. Donc, je vous invite à consulter. Je vous ai partagé sur notre page Facebook de FADOC Saint-Jean ce lien-là de Juridis Québec qui prodigue l'ensemble de ces conseils-là. Et on se rappelle que c'est dans le cadre de la semaine des proches aidants. Donc, je vous invite à aller prendre connaissance du tout.
Entre autres, là-dedans, là, il y a instauré un conseil de famille pour discuter des besoins et des tâches de tous et de bien s'expliquer puis de parler de ses émotions parce qu'il y a des gens qui tassent les tâches vite. Ah, ben moi, je fais pas ça, ben je m'occupe pas de ça. C'est toujours souvent les mêmes personnes, pour en avoir discuté avec plein de monde, c'est toujours les mêmes personnes qui font les tâches, là, tu sais.
Ou les tâches les plus ardues, tu sais.
Oui.
On va dire, bon, ben moi, je vais aller chercher les médicaments, mais quand c'est pour l'entretien de la maison, on ne sera pas présent, quand c'est pour du transport. Donc, il faut voir, comme je dis, à avoir un juste équilibre parce que le danger là-dedans, c'est toujours d'avoir d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de soutien. Puis aussi de faire en sorte de garder des situations qui peuvent être harmonieuses parce que une personne qui nécessite d'avoir un proche aidant, donc l'aider, risque d'avoir une situation qui, au fil du temps, risque de s'alourdir. Et dans ce cas-là, ben, va demander davantage un entourage. Alors, des fois, si ça repose sur les épaules d'une personne, ça peut devenir, à un moment donné, si, ça peut devenir tenable pour un certain temps. Mais quand la situation devient plus complexe, ben là, on a peut-être besoin d'aide additionnelle et c'est là que l'aspect de la famille peut devenir important. On sait que de nos jours, les familles sont de moins en moins nombreuses. Donc, de là,
éparpillées aussi, hein? Éparpillées aussi à travers le Québec.
Bien, tout à fait raison. C'est sûr que la conjoncture sociodémographique des dernières années a fait que beaucoup de jeunes ont quitté la région sans nécessairement revenir. C'est en train de non seulement de se stabiliser, mais on est en train de regagner des gens qu'on a perdus au cours des dernières années. Mais il reste effectivement que les familles sont moins nombreuses pour prendre soin des parents qui sont prêts. Mais vous savez, il y a toutes sortes de façons de regarder les choses. Je vais donner un exemple. Je sais que dans une famille, il y a quelqu'un qui a dit, bien, moi, pour tout ce qui est des factures, comme je suis à l'extérieur, je ne peux pas aider maman, bien, je vais à ce moment-là, moi, demander des factures, d'avoir ça par courrier électronique, puis comme elle avait une procuration pour s'occuper des affaires financières, donc je le faisais à distance. Donc, il y a des façons, des fois, à l'intérieur des familles, de trouver des compromis pour que chacun puisse avoir une partie de tâche, puis à ce moment-là, aider la personne qui en a besoin.
En tout cas, le petit document dont tu nous as parlé, là, à consulter, il est vraiment, vraiment intéressant pour ce côté-là. Maintenant, il y a le réseau FADOC qui propose des pistes prioritaires pour la stratégie de prévention en santé du ministère de la Santé, puis je trouve ça intéressant, encore une fois. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour éviter d'engorger le système de santé. On le fait pour soi d'abord, mais collectivement, là, on pourrait beaucoup pour améliorer les services qu'on a en prenant soin de nous-mêmes.
Oui, si on regarde, malheureusement, au Québec, on a une culture de la santé qui est reliée beaucoup à l'aspect du curatif, c'est-à-dire qu'on va soigner les gens une fois qu'ils sont malades. Alors, dans ces consultations-là, on parle beaucoup de tout l'aspect de la prévention. Et lorsqu'on investit en prévention, bien, inévitablement, on risque de sauver des coûts au niveau du curatif. Et ça, bien, il faudrait s'inspirer beaucoup, là, notamment de la Suède, des sociétés scandinaves qui, eux, investissent beaucoup dans la prévention. Et quand tu préviens, bien, tu mets moins d'argent non seulement tu mets moins d'argent pour soigner les gens, mais en plus, les gens ont de meilleures conditions plus longtemps, de meilleure qualité de vie. Donc, à l'intérieur des consultations qui s'amorcent actuellement sur le sujet, qui vont être menées par le directeur national de la santé publique, le docteur Luc Boileau, hein, parce qu'il y a un autre chapeau que le COVID, cet homme-là. Mm-hmm. Donc, la FADOC va participer à ces consultations-là, comme on le fait de façon régulière, pour parler de trois stratégies, trois axes qui nous apparaissent vraiment importants, trois grandes priorités. La première, qui est celle de la nécessité d'une vision inclusive des loisirs et des sports, parce qu'actuellement, toute la pratique des sports passés 50 ans n'est pas nécessairement en avant-plan à l'intérieur des orientations gouvernementales. Tout ce qui est aussi au niveau des soins à domicile, donc on parlait de proche aidance tout à l'heure, il y a la proche aidance qui est apportée naturellement par la famille, mais il y a aussi la proche aidance qui est apportée par le gouvernement, notamment avec les services de soutien à domicile et les entreprises d'économie sociale. Donc ça, on a pris du retard là-dedans, mais on sait que le gouvernement investit et on leur demande d'investir encore parce que les gens veulent demeurer à la maison le plus longtemps possible et on sait que les gens qui restent à la maison coûtent beaucoup moins cher qu'une personne qui est hébergée en CHSLD notamment ou encore au niveau des hôpitaux. Puis également, on en a parlé déjà un peu la semaine dernière, tout ce qui est des remboursements pour des frais médicaux, pour des services essentiels comme les prothèses auditives. On sait que la RANQ actuellement couvre un appareil sur deux. Tout ce qui est des programmes d'aide qu'on pourrait développer pour les lunettes, les aides à la mobilité. Donc, tout ça aurait un impact assez grand au niveau de la prévention. Et c'est ce qu'on va faire valoir à l'intérieur des consultations qui vont s'amorcer par le ministère de la Santé.
On reste dans le domaine de la santé parce qu'il y a Roxane Bouchard qui va donner une conférence super intéressante sur l'anxiété.
Oui, exactement. Donc, l'anxiété, la conférence va avoir lieu demain. Donc, demain, on est le 6 novembre à compter de 14 heures. C'est une conférence qui va se donner en ligne. Roxane Bouchard a beaucoup d'expérience dans le domaine. Elle a déjà plus de 250 conférences qui sont données sur le sujet. L'anxiété, hein, c'est un mal très actuel qui est de plus en plus verbalisé. mais comment on peut contrer ça, comment on peut se donner des outils pour y faire face. Mais ça sera traité à l'intérieur de la conférence. Les gens peuvent s'inscrire via notre plateforme fadoc.ca ou encore à partir de notre page Facebook Fadoc Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Oui, c'est clic conférence. Dans le document que j'ai reçu, là, c'est marqué mercredi 13 novembre, 14 heures. C'est-tu bien demain dont tu parles?
Oui, excuse-moi, c'est le 13 novembre. Okay. C'est moi qui ai fait l'erreur là, dans la date.
Il n'y a pas de problème. Donc, 13 novembre à 14 heures, fait que vous avez le temps d'aller vous inscrire. Là, ça va être vraiment intéressant. Et puis, on va parler de sommeil, parce qu'il y a des mythes et des réalités en lien avec le sommeil après 50 ans.
Eh oui, puis je dirais après 50 ans, mais même avant 50
ans. Ben oui.
Mais, c'est sûr qu'il y a des gens, en tout cas, dans les mythes qui existent, on parle beaucoup qu'une personne qui vieillit aurait besoin de moins d'heures de sommeil. Vous allez voir dans l'article, encore une fois, que je vous ai partagé, c'est faux. On dit qu'une personne de 18 à 65 ans aurait besoin d'environ 7 à 9 heures de sommeil par jour. Puis après 65 ans, il y aurait une légère baisse là, de 7 à 8 heures. Donc, c'est pas signifiant. On voit encore que le sommeil réparateur est essentiel malgré qu'on avance en âge. Il y a toujours aussi les gens qui vont dire « Ah, la fameuse petite sieste de l'après-midi, hein, Annick, après le dîner, là, quand on a un coup de mou. »
Quand on peut, quand on peut.
Quand on peut.
Oui.
C'est sûr que ça a également, ça peut avoir tendance à hypothéquer une bonne nuit de sommeil réparatrice. Ce qui est mentionné à cet égard-là, de jamais faire de sieste passée 15 heures, puis si on en fait une, ben d'y aller sur autour d'une vingtaine de minutes. Donc, on dit souvent là, une petite expression anglophone, un petit power nap là, pour se remettre sur le piton. Donc, oui, ça peut se faire. Puis si on s'aperçoit que ça ne nous nuit pas, ben on peut naturellement nous permettre de faire cette petite sieste-là qui nous permet de récupérer. On sait aussi que beaucoup de gens vont contrôler leur sommeil par l'aspect de la médication, vont apporter une solution par le biais de la médication. Naturellement, c'est une solution qu'on voudrait temporaire et non pas permanent parce qu'il y a un risque de développer de l'accoutumance. Et pour ça, ben il y a des conseils également sur l'article que je vous partage, notamment celui-là de pas faire d'écran trop avant de se coucher, différents éléments comme ça là, que les gens pourront consulter, qui pourront vous permettre là, de trouver un sommeil réparateur. Puis, il faut rappeler également que l'effet qu'on avance en âge, ben ça a une incidence sur la façon aussi dont on va dormir, donc sur un sommeil qui va nous permettre de nous régénérer, de récupérer. Donc, on va avoir tendance à avoir un sommeil un peu plus léger. Puis, naturellement, chez les femmes, tout ce qui est de la question des changements hormonaux va avoir un impact sur le sommeil. Tout ce qui est également des problématiques de santé, l'hypertension, l'arthrite, les maladies cardiovasculaires, qui ont tendance un petit peu à s'accentuer avec le vieillissement, vont avoir une incidence également. Puis, on sait aussi, hein, puis ça, c'est de mieux en mieux documenté, je dirais aussi, entre guillemets, de mieux en mieux contrôlé, tout ce qui est la question de l'apnée du sommeil. Parce que pour les gens qui font de l'apnée du sommeil, ceux qui vivaient, supposons, sans machine auparavant, puis maintenant qu'ils en ont une, vont vous dire à quel point ça a eu une incidence importante sur la façon dont ils récupèrent à l'intérieur.
Ben oui, leur énergie, ils sont beaucoup plus énergiques.
Voilà, exactement. Donc, je me suis dit que l'article était plus que pertinent parce que ça touche monsieur et madame tout le monde, et même peu importe l'âge, hein, mais c'est sûr que passé 50 ans, il y a encore plus de gens qui sont impactés. Alors, l'article est disponible sur notre, encore une fois, sur notre page Facebook de Fadoc Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une production là, qui était inscrite dans le magazine Virage, le magazine de la Fadoc, qui est publié et distribué à l'ensemble des membres.
Je me demandais, c'est bon, c'est pas une discussion qu'on avait échangée avant là-dessus, mais je me demandais si vous suivez les élections américaines, parce que la Fadoc a quand même été invitée à l'ONU à un moment donné, puis fait que ce qui se passe au niveau américain, est-ce que vous suivez ça particulièrement ou pas du tout?
Bien, c'est sûr qu'on est toujours interpellé, hein, puis on regarde. Je vais te donner un exemple. La Fadoc est une organisation qui organise des voyages.
Mm-hmm.
Puis juste pour te parler, lors de la première élection du gouvernement Trump à l'époque, lorsque celui-ci avait été élu, on avait un voyage aux États-Unis qui était organisé. Et au lendemain de l'élection de Donald Trump, on avait eu une vague d'annulation sur le voyage qui avait été signalée. Donc, c'est certain que nous, dans le cadre actuellement de choses qu'on prévoit, exemple avec les États-Unis, bien, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer avant d'annoncer certains éléments, parce qu'il pourrait y avoir des éléments au niveau de la participation de nos gens qui pourraient être influencés par le choix du ou de la future personne qui gouvernera les États-Unis à partir de, est-ce que ça sera demain ou dans 2-3 semaines qu'on le saura avec des recomptages qui auront lieu. Faudra voir, mais c'est la question du jour. Mais oui, je pense que personne ne peut dire actuellement que les États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis a un impact sur leur quotidien. Puis, tu sais, il faut voir aussi au niveau du travail, Annick, parce qu'il est bien certain qu'avec les mesures de protectionnisme américain, qui sont omniprésentes dans les orientations d'un gouvernement Trump qui s'amènerait. On parle de peut-être 20 000 emplois au Canada qui seraient éliminés avec un gouvernement Trump qui reviendrait. Remarquez qu'au niveau des démocrates aussi, c'est pas aussi violent, mais il y a des choses aussi qui sont prévues.
Qui vont changer.
Qui aura un impact également. Donc, c'est sûr que tout le travail pour la clientèle âgée actuellement, les gens qui sont retournés sur le marché du travail, ben si on a une baisse d'emploi de 20 000 emplois au Canada, il va avoir nécessairement un impact chez la clientèle des gens retraités qui sont retournés pour des considérations financières pour plusieurs. Donc, oui, on suit ce qui se passe chez nos voisins du Sud avec intérêt.
Bien, merci beaucoup, Patrice. On se reparle la semaine prochaine.
À toi également. Bonne semaine.
Bye. Il est 11h26. On fait une pause et on vous revient dans quelques instants en musique avec Madame. Un mec, ça s'en vient.